VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 17h à Ouagadougou, au Burkina Faso, 13h à Washington. Bonsoir, bienvenue. On commence par les révélations de Wikileaks selon lesquelles les États-Unis ont placé sous écoute le président français François Hollande et ses deux prédécesseurs. Les États-Unis doivent tout faire pour réparer les dégâts liés à ces révélations, a fait savoir le premier ministre français Manuel Valls. Ici à Washington, l'administration Obama s'est limitée à dire qu'elle ne cible pas les communications du président Hollande et ne le fera pas. En 2013, des révélations similaires concernant les communications de la chancelière Angela Merkel avaient provoqué des tensions entre Berlin et Washington. Timothée Donangmaya a recueilli ici à Washington l'analyse de l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
L'espionnage, les écoutes sur les téléphones, sur les messages qui viennent dans l'Internet, c'est quelque chose de très courant depuis longtemps. Et tous les gouvernements font ça s'ils ont la capacité dans la technologie. Bien sûr, si ça devient public, le gouvernement français ou allemand doit protester. Mais je crois que c'est pas très sérieux. Tout le monde fait ça. Par exemple, à l'ambassade de France aux États-Unis, il y a des attachés scientifiques qui circulent dans les industries américaines pour chercher les secrets technologique. Donc, je ne crois pas que c'est une chose très grave.
Donc, on s'espionne même entre amis?
Oui, oui, c'est fait. Il y a des amis, bon, on doit voir si les amis sont fidèles, n'est-ce pas?
Alors, on sait que les États-Unis et la France ont des relations très étroites en matière de renseignement, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Alors, quel sera l'impact de cette affaire sur ces relations?
Je ne crois pas que ça va changer grand-chose. Vous avez raison, les relations dans les renseignements sont très étroites et il y a des gens de renseignements français qui sont ici à Washington et vice-versa. Il y a des Américains de la CIA qui sont à Paris et il y a des échanges tous les jours. Et je n'ai pas l'impression que rien va changer. Bien sûr, il faut protester une fois que quelque chose devient public, mais ce n'est pas grave.
C'est un rituel convenu quand il y a ce genre de révélation qu'il faut protester.
Il faut protester, bien sûr, pour la public.
Mais vous ne voyez pas de conséquences à long terme de cette affaire?
Non, je ne vois pas de conséquences à long terme.
L'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, joint ici à Washington. Barack Obama a présenté ce mercredi des aménagements à la politique américaine sur les otages, notamment la mesure la plus emblématique, ne plus menacer de poursuivre en justice les familles qui paieraient des rançons. En vertu de cette nouvelle disposition, les familles pourront proposer le paiement d'une rançon sans être menacées de poursuites judiciaires, comme ce fut le cas pour Diane Foley, la mère du journaliste James Foley, décapité en août 2014. Ce geste en direction des familles ne fait pas l'unanimité, car il n'est pas exempt de contradiction. D'abord parce que la loi sur le financement des organisations terroristes reste inchangée.
VOA Afrique en direct de Washington.
Faure Gnassingbé réapparaît en public après une absence médiatique longue d'une vingtaine de jours qui alimentait des rumeurs sur son état de santé. Le président togolais a été montré à la télévision publique mardi à la suite de deux audiences au palais présidentiel de Lomé. Jacques Aristide.
Faure Gnassingbé revient sur la scène publique et il est en forme. Du moins, en croire plusieurs sites d'information togolais tels que Togo Breaking News et lomecity.com. Non seulement le chef de l'État togolais a apparu à la télévision nationale mardi soir, mais a également été vu en compagnie de deux personnalités. La première, Biza Williams, la sous-secrétaire américaine aux affaires africaines. Arrivée lundi, Madame Williams avait fait savoir qu'elle allait rencontrer notamment des dirigeants politiques togolais et des représentants de la société civile lors de son séjour de deux jours. À l'agenda également, la remise d'un chèque de 70 millions de francs CFA aux ONG engagées dans le planning familial. À la sortie de son tête-à-tête avec le président togolais, la diplomate américaine a été montrée à la télévision avec un Faure Gnassingbé arborant un grand sourire. Mahamat Nassissé Gourau, qui est à la tête du service Afrique du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, était l'autre personnalité qui s'est rendue au palais présidentiel, une visite dont les images ont aussi été relayées sur le petit écran. Pour les médias togolais, ces audiences, accordées par l'homme fort de Lomé, sont venues mettre un terme aux folles rumeurs sur l'état de santé de Fornia Singbe, qui n'avait pas été vu depuis le 5 juin dernier.
Et le dossier de ce journal, le gouvernement de transition au Burkina Faso doit concentrer tous ses efforts sur les élections d'octobre, estime International Crisis Group dans un nouveau rapport. L'ONG s'inquiète du fait que dans un contexte marqué par des tensions politiques et une forte agitation sociale, des représentants de l'ancien pouvoir soient exclus des prochains scrutins, ce qui ouvrirait la porte à d'interminables arguties juridiques et menaces le respect du calendrier électoral, souligne-t-elle. Pour plus de précisions, Camille Gros-Didier a joint à Dakar Cynthia Ohayon. Elle est chargée de l'Afrique de l'Ouest à International Crisis Group.
Il y a un nouveau code électoral en fait, qui a été voté en avril. Et ce code prévoit que sont exclus des prochaines élections tous ceux qui ont soutenu la révision constitutionnelle qui visait à autoriser le président Blaise Compaoré à briguer un autre mandat. Donc ce code électoral, même s'il est un peu flou, est très ambigu et qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la façon dont il va être appliqué. Il vise à exclure en fait les anciens soutiens du président Compaoré, donc la classe politique dirigeante sous l'ancien régime. Et donc ce qui est dangereux un petit peu, c'est ce risque de les exclure, de ne pas leur permettre de s'exprimer dans les urnes, et ça risquerait de les pousser vers des stratégies extra-électorales de contestation, voire de déstabilisation ou de sabotage du processus électoral. Donc c'est une menace qui pèse de manière incertaine, mais qui pèse sur les élections.
Dans votre rapport, vous notez que le gouvernement burkinabé de transition est pris au piège de ses propres errements. Qu'est-ce que vous disiez par là ?
Effectivement, en fait, le gouvernement, quand il a été mis en place, ça s'est fait dans un contexte un petit peu d'euphorie post-révolutionnaire où on ne pensait pas que la chute de Compaoré était possible. Donc il y a eu énormément d'attentes populaires qui se sont accumulées autour de la mise en place de ce gouvernement. Et le gouvernement a fait énormément de promesses, donc notamment le Premier ministre Isaac Sida, qui est issu de la garde présidentielle de Compaoré, a fait beaucoup de promesses. Il a par exemple promis justement qu'il allait dissoudre cette garde présidentielle, qu'on appelle le RSP, le Régiment de Sécurité Présidentielle. Et on a vu assez rapidement, début février, il y a eu une sorte de mini-crise politique. On a vu qu'il n'avait pas du tout la marge de manœuvre qu'il pensait avoir, ou du moins qu'il disait qu'il avait. Il a été d'ailleurs assez rapidement obligé de reculer, puisqu'il a récemment dit que le RSP ne serait pas dissous, etc. Il y a aussi beaucoup d'attentes au niveau économique, social, des demandes de justice pour tous les crimes qui ont été commis. Et le gouvernement a fait beaucoup de promesses, et il est évidemment incapable de tenir toutes ces promesses. On est dans un contexte de crise budgétaire.
Justement, quelles sont certaines des recommandations donc du rapport de l'International Crisis Group ?
Oui, voilà. Alors, il y a deux, trois éléments peut-être qui seraient importants de souligner. En fait, le risque principal de ce code électoral dont j'ai parlé au début est qu'il est assez flou et qu'il va laisser une grande marge d'interprétation au Conseil constitutionnel. Ce que le gouvernement pourrait faire pour le préciser serait par exemple de publier un décret pour préciser quels seront les critères qui seront utilisés pour déterminer qui a soutenu ou pas la révision constitutionnelle. Ce qu'on espère, c'est que le code électoral sera appliqué de manière suffisamment restreinte pour ne pas exclure trop de monde. Et donc, il y aura une sorte de modération à ce niveau-là. Autre chose aussi qu'on recommande aux acteurs politiques et de la société civile burkinabé serait de considérer d'ouvrir un dialogue politique le plus formel possible.
Voilà, International Crisis Group qui a sorti un rapport donc sur le Burkina Faso. En Somalie, les milices islamistes Shabab ont revendiqué aujourd'hui un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio. Un kamikaze au volant d'un véhicule a percuté une voiture d'escorte d'un convoi de l'ambassade des Émirats Arabes Unis dans la capitale somalienne. L'explosion a coûté la vie à au moins 6 personnes et fait 6 blessés selon les médias, mais le personnel diplomatique serait indemne. Joseph Kabila sonne la charge contre la corruption en République démocratique du Congo. La plainte a été déposée par Lusolo Bambi, conseiller spécial du président congolais en matière de bonne gouvernance. La République démocratique du Congo occupe la 154e place de l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Prochaines informations sur VOA Afrique, c'est dans seulement 20 minutes avec le magazine Le Monde aujourd'hui, présenté par Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir chez vous et à bientôt.
« Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.